nouveauté sur Europe 1 au bout de la nuit. Il s'appelle Adamé. Ça, c'était pour la musique. Et on va poursuivre notre balade nocturne avec à présent Didier Barbelivien et son invité.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Je connais peu d'hommes qui aiment autant la musique que lui. Au point qu'il m'arrive de me dire qu'il a dû être un jukebox dans une autre vie. En effet, mon invité a une connaissance plutôt érudite de la chanson française, mais pas seulement. Il a aussi été en son temps le promoteur d'une musique mondiale qu'il a su programmer sur l'antenne d'Énergie avec un flair que beaucoup de ses concurrents lui enviaient. On va en reparler. Quand je pense qu'il a été dans sa jeunesse tenté de devenir prêtre pour finalement être un épisodique chanteur dans les années 80, avant bien sûr de se consacrer à la carrière de Dalida en tant qu'attaché de presse. Mais pendant ces années-là, il n'en reste pas là. En parallèle, il passe le concours du CAPA qui fait de lui un avocat spécialisé dans le droit pénal. Et puis il croise un jour la route de Jean-Paul Baudecroux, fondateur de la radio libre Énergie. Il en sera le programmateur, le promoteur, le secrétaire et le directeur général en attendant d'arrêter sa course au poste de président du directoire du groupe Énergie. Mais si vous pensez que son destin s'est arrêté là, vous vous trompez, mesdames et messieurs. Contre toute attente, il prend à 46 ans la tête du Stade français et 5 ans plus tard, il décroche son premier titre de champion de France. Il en obtiendra 4 autres encore. Qui dit mieux ? Ce garçon avoue être un timide, capable des plus grandes audaces. Il l'a prouvé dans un parcours guidé par la marque de sa liberté. C'est un catholique fervent et lucide qui sait que la liturgie est une mise en scène de la religion. Il n'a jamais confondu non plus sensibilité et sensiblerie. Alors quand il se consacre à la défense de la cause animale à travers la fondation Brigitte Bardot, il le fait avec son cœur, avec force, avec détermination, pour s'occuper de ceux qui n'ont que nous pour les protéger. C'est peu dire que nous partageons ensemble, l'amour des chiens, dont j'ai coutume de rappeler qu'ils sont tous atteints de la fidélité, une maladie non transmissible à l'homme. Vous savez bien, chers auditeurs, que je reçois ici toute l'année des personnalités du spectacle sous toutes ses formes, le tout Paris qui chante et qui pétille, comme on dit. Il m'arrive plus rarement de mettre en lumière des personnages qui y participent ô combien, mais qui sont plus discrets, plus modestes peut-être. Il n'empêche que celui que j'accueille aujourd'hui en votre nom sur l'antenne d'Europe 1 est effectivement un modèle de pudeur et de sincérité comme j'en ai peu rencontré dans ma vie. C'est un vrai bonheur de retrouver en face de moi, derrière ce micro, un gentleman de la vie médiatique, mon ami Max Guazzi.
Bonjour Didier.
Mais bonjour jeune
c'est
homme.
C'est trop.
Mais t'as vu la vie que tu as ?
Et encore,
la vie qui a été la tienne. Mais non, j'ai pas tout dit.
Bah écoute.
J'ai pas pu dire tout ce que tu as fait.
Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça continue. Hein. Il y a aussi la Légion. Je suis légionnaire. Je suis colonel de la réserve citoyenne de la Légion étrangère.
Mais attends, mais quand j'ai lu ça, j'en ai pas parlé. Parce que je me suis dit, c'est une fake.
Non, pas du tout.
C'est une fake news.
Et même le général m'avait fait légionnaire de première classe, c'est-à-dire que je suis matriculé, j'ai un numéro de matricule à la Légion étrangère. Un numéro bis, comme on dit, voilà. Et puis je produis de la musique aussi, mais plutôt catholique. Voilà, bon, mais c'est tout, ouais. Mais je crois que c'est trop d'éloges pour moi.
Hein. Non, c'est pas trop d'éloges. Enfin, ouais, t'es fou, ouais. Quoi. Non, mais dis donc.
C'est trop d'éloges.
Mais il va se taire, mesdames et messieurs, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Non, mais c'est gentil.
Non, enfin, t'es fou, je suis pas gentil, je suis réaliste. Je le dis tout le temps dans l'émission. Bon, ton premier choix, alors là, en plus, celle-là, c'est pareil. J'aurais pu la choisir, moi, dans un « Dis-moi ce que tu chantes » consacré à Didier Barbelivien. J'aurais pu mettre cette dame, peut-être pas avec cette chanson-là, mais je l'aime autant que toi. Ouais, vraiment. Petula Clark, Chariot.
Petula Clark.
Le premier choix de mon invité Max Guazzini cet après-midi sur Europe 1, mesdames et messieurs.
Tu veux de moi pour t'accompagner au bout des jours. Laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons du côté d'où montera le jour. Dans les premiers reflets du ciel, avant la chaleur du soleil, sous la dernière étoile, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime ce vieux chariot qui tangue, qui tangue, qui tangue. Si tu veux de toujours l'été sous la lune d'argent, l'hiver dans la neige et le vent. Alors dis-le-moi, je pars avec toi. La plaine, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime. De moi, de ma vie et de mon pour amour, le long des torrents et des bois, au cœur des dangers et des joies. Alors dis-le-moi, je pars avec toi.
Chariot.
Petula.
Petula Clark.
Petula. Que fais-tu là, Petula ?
Que fais-tu là, Petula ?
Moi, j'ai toujours adoré Petula Clark. Quand j'étais gosse, une fois, je me promenais dans Marseille, je tombais sur une affiche, il y avait cette dame blonde, ce visage blond, et je tombais amoureux d'elle. Je sais pas, j'avais 10 ans, etc. Et je me suis procuré tous ces disques, et notamment Chariot, qui était quand même un tube énorme, et qui est une chanson française, on l'oublie, qui a fait le tour du monde.
Franck Porcel, Jacques Plantin.
Voilà. Et en fait, sa version anglaise, I Will Follow Him, a été bloquée par la douane aux États-Unis. Et c'est une chanteuse américaine qui l'a prise, qui l'a volée quelque part, qui a été numéro aux États-Unis avec cette chanson. En Italie, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a fait l'adaptation italienne, qui était numéro un. On lui a volé sa chanson, et c'est terrible parce que c'est elle qui l'a créée, et c'est une chanson quand même qui a fait le tour du monde.
Oui, mais elle s'est rattrapée parce que quand même, je rappelle à nos auditeurs qu'en 1964, elle est numéro un dans le monde entier, avec une chanson qui s'appelle Downtown. Oui. Et ça me faisait drôle de lire parce que je m'étais procuré le Billboard à l'époque, enfin pas en 64, mais une quinzaine d'années après. Numéro 1, Petula Clark, devant Frank Sinatra, les Beatles, Bob Dylan, tout le monde, Petula Clark.
Et c'est la première fois qu'une chanteuse anglaise était numéro 1 aux États-Unis.
Ouais. Voilà. Et puis c'est une femme merveilleuse. Moi, j'ai eu la chance d'écrire pour elle et de la connaître dans la vie. Et elle est toujours parmi nous, elle est toujours en forme.
Hein. Oui.
Toi, tu as parlé de Marseille, là, dans les rues de Marseille. Elle était comment ton enfance à Marseille, Max ?
Bah, c'était une enfance normale à l'école, dans une école communale, et puis après dans l'école Notre-Dame de la Vie, c'était à Marseille.
Ça t'a plu ?
Oui, j'aimais pas du tout l'école communale, c'était pas du tout. Et voilà, c'est bien passé, mais jusqu'en classe de 3e. En classe de 3e, on a habité à Aix-en-Provence, et là, c'était un autre monde. Quand tu es à Aix, Marseille, tu sais plus où c'est, quoi. Donc, mais effectivement, mais pour revenir à Petula, elle a 93 ans, et là, elle imagine de faire un concert encore, quoi. Elle était sur scène il n'y a pas très longtemps, et moi, je suis allé la voir à Londres. C'était soi-disant son dernier concert à Londres, Et c'était formidable, quoi, dans ce théâtre. Et après, je suis monté la voir, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Londres ?» Ben, je dis, je suis venu te voir, Pétula. Et je l'ai amené au Stade de France pour un match du Stade français. Je l'ai amené dans les vestiaires ensuite, les joueurs qui étaient très dénudés. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime profondément et c'est quelqu'un de gentil et de talentueux. Et puis elle chante depuis la guerre de 40 quand même.
C'est vrai, depuis la guerre de 40.
Elle chantait pour les soldats.
Mais elle était une enfant, gamine, oui, elle était adolescente.
Elle a commencé en chantant, effectivement, et elle a fait pas mal de films aussi. Bon, qui sont peut-être pas ce qu'elle a fait de mieux, mais enfin voilà. Enfin, moi, je l'aime beaucoup.
Et mais moi aussi. Et je suis heureux de ce choix parce que je crois, Maryse et Rémy, là-bas derrière la vitre, vont me le confirmer, c'est la première fois qu'on nous programme Pétula Clark dans Chariot. Mais on la retrouvera ici dans cette émission parce qu'on l'adore. A tout de suite avec Max Guazzini, mon invité sur Europe 1 cet après-midi.
17h, 18h, dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien sur Europe 1. 17h, 18h, Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Max Guazzini est mon invité cet après-midi dans Dis-moi ce que tu chantes. Pour ceux qui n'ont pas pris l'émission au début, je vous rappelle qu'on a eu la pétulante, la pétillante Pétula Clark. Et là, on a la star des stars. Là, on a Dalida dans Le Temps des Fleurs. C'est un de ses plus gros tubes. Pour ceux de ma génération, ils se souviennent que ça s'appelait Those Were the Days par Mary Hopkins. Mais Dalida en a fait un tube qu'on chante encore aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, sur le marché de Noël, toute la foule dans le 17e arrondissement, à un moment, s'est mise à chanter le Temps des Fleurs.
C'est une chanson très populaire, et moi j'aime les chansons populaires d'ailleurs. Et c'est vrai, c'est pas, on entend, j'aurais pu choisir Monday Tuesday, mais je trouve que le Temps des Fleurs est un titre qui plaît beaucoup. Et je me souviens quand j'étais à la radio, qui n'est pas celle-là, on avait fait des tests sur Dalida, et c'est la chanson qui remontait, était pratiquement en tête des chansons préférées de Dalida auprès du public qu'on avait, c'était Nostalgie. Et je dois dire que moi j'aime beaucoup cette chanson, voilà, c'est tout, j'aime beaucoup Dalida, je la connaissais, elle fait partie de ma vie. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre?
Tu vas en parler de Dalida. En attendant, on écoute Le Temps des Fleurs.
Très bien.
suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. C'est
des énormes tubes de Dalida au milieu de tant d'autres, mais ça c'est devenu presque un hymne. Le temps des fleurs. Parce oui, que je ne sais pas, bon, le texte d'Eddy Marnay est merveilleux, je ne sais pas, cette chanson, on dirait qu'elle est, elle porte un espoir, quoi. Elle est... Et pourtant, il y a de la nostalgie là-dedans, mais...
Elle est pleine de gaieté quand même.
Ouais.
Elle nous soulève un peu le cœur, franchement.
Ouais. Et...
Elle est positive, je trouve.
Toi, tu l'as connue en quelle année, celle-là? Tout
la
de suite, quand elle
Dalida
est sortie. Non, cette chanson, Dalida, on va
je
en parler.
Je ne sais pas quand je l'ai sortie, je crois que tout le monde l'a connue à ce moment-là. Je ne me souviens plus de l'année, d'ailleurs.
C'est un énorme tube en 68.
Mais moi, je ne sais pas, en 68, je n'écoutais pas la radio en plus.
Toi, tu étais sur les barricades en 68, coquinou que
non,
tu es.
Non, mais je n'écoutais pas la radio en deux mots.
Tu étais chez les maristes?
Oui, tout à fait.
Tu vois?
Dans un foyer d'étudiants catholiques à Paris, dans le 104 de la rue de Vaugirard.
Dont tu es devenu, parce que...
J'ai été élu président la deuxième année par les étudiants, voilà. Étudiants 150. Mais c'est un foyer dans lequel Mauriac a été élève et président d'ailleurs. Mitterrand qui a pas été président, Balladur, Maluret là qui est sénateur Maluret.
Ouais, bah,
et
non,
beaucoup d'autres
fréquenté.
Personnes comme ça, voilà. Bettencourt aussi était. Et voilà donc, mais c'était une autre époque.
Et Dalida déjà. Quand tu l'entends, là, comme ça, dans ces années-là, fugitivement même, tu sais pas la part importante, plus qu'importante, qu'elle va avoir dans ta vie, cette femme.
Oui, bien sûr. Moi, je l'ai connue par son frère Orlando, puisqu'à l'époque, j'avais enregistré deux disques qui étaient nuls, bien sûr. D'ailleurs, un qui était coédité par Europe 1. Mais bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est vrai que j'ai bossé un peu avec elle, et c'était une femme tellement extraordinaire. Bon, c'est une star mondiale, on le sait, mais par-delà tout ça, bon, elle est d'actualité d'ailleurs. Grâce d'ailleurs à son frère, de nos jours, elle passe dans les discothèques, c'est incroyable,
oui,
quoi.
Et puis elle a une histoire très particulière
très
avec
particulière.
La radio Europe 1. Avec
oui, bien sûr,
ici.
À l'époque, c'est Europe 1 qui l'a lancée.
Bah oui, elle était l'épouse de Lucien Maurice.
Voilà, qui était le patron d'Europe 1. Donc,
le directeur
voilà.
des programmes.
Oui, c'est ça, directeur. Effectivement, c'était une femme que j'aimais beaucoup. Moi, pendant longtemps, j'ai pas pu la regarder à la télé après sa mort, parce que ça me touchait trop. Et moi, j'ai fait partie des quelques personnes qui étaient chez elle quand elle est décédée, quoi. Donc, on était très peu. D'ailleurs, Orlando, à l'époque, il voulait pas qu'on le dise qu'elle était décédée. Il voulait qu'on l'enterre. Il y a des obsèques privées, on l'enterre, et puis on l'aurait dit après. Mais bon. Forcément, les pompiers étaient venus. Moi, c'était les pompiers étaient venus, le SAMU, donc forcément, ça a fuité, quoi. Donc,
non, je me souviens, c'était un dimanche soir, parce que j'oublierai pas. Pascal Auriat dînait à la maison, et tout d'un coup, la nouvelle est tombée. On n'a pas dîné.
20h10, 20h10 environ.
Voilà. On est venu à Europe 1 rendre hommage à Dalida.
Et en fait, nous, on était en vase clos. Et le téléphone sonne. Alors moi, je réponds. C'est son coiffeur. Il me dit, pourquoi tu réponds? Ben, je réponds parce que je suis à côté du téléphone. Comment va Dali? Parce qu'on l'appelait Dali.
Bah oui, oui, bien
comment
sûr.
Va Dali? Je dis, ben, ça va. Pourquoi tu me poses la question? Il me dit, t'es sûr? Ben, j'ai dit oui. Et il me dit, pourquoi? J'ai dit, il me dit, parce qu'à la télé, j'ai dit, à la télé, quoi? Ils ont dit qu'elle était morte. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Et puisqu'ils avaient dit à la télé. Et là, le quartier a été envahi à l'époque. C'était incroyable.
Et dis-moi, dans ce titre-là, justement, quand le texte dit « Ce soir, je suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. » Tu as la nostalgie de ces années-là, de ta jeunesse, de tes études d'avocat.
On a tous la nostalgie de certains moments de sa vie, forcément.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce texte lui ressemble, surtout à la fin de sa vie.
Ouais.
Parce qu'on sait bien que la goutte qui a fait déborder le vase de Dalida, c'était un dîner annulé.
C'est pas vrai.
Un dîner annulé par...
tu veux dire...
avec quelqu'un avec qui elle avait une relation, et c'était le long week-end du 1er mai.
Oui.
Et donc, voilà. Mais je crois qu'elle avait déjà préparé son départ, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait que... voilà. Elle a dit à son habilleuse, « Demain, réveille-moi à 16h. » je sors ce soir, etc. En fait, elle a fait semblant de sortir, elle a dit à son habilleuse de sortir, elle est rentrée à la maison et elle a fait son... Mais moi qui étais dans sa chambre après, elle reposait, elle était bien, quoi, dans un pyjama blanc, je me souviens très bien, je me suis assis, il y avait un canapé, je me suis assis, je regardais, et forcément je pleurais.
Oui, sans y croire, parce que tu peux pas y croire.
Oui.
Moi je me souviens d'avoir vu Claude François comme ça, dans son costume, sur son lit, et j'arrivais pas à... je me disais, il dort, il était nickel, il était impeccable. On peut pas croire.
Ouais, bien sûr.
On est figé par ça. Et puis ces gens qu'on a aimés, et puis c'est Dali qui était tellement, mais tellement sensible, qui était une femme, moi, tu sais, j'ai fait deux albums avec elle, je me souviens d'elle en studio, c'était une femme d'une telle douceur, d'une
gentillesse,
respect d'une élégance.
Des autres.
Tu sais, un jour, je me souviens, on était chez Bernard Estardi, là-bas, chez CBE, oui. Rue Championnet. Et un matin de janvier, donc moi, je connaissais même pas la nouvelle, elle est arrivée au studio et il y a eu l'accident de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine dans les dunes, là, sur le Paris-Dakar.
L'hélicoptère.
L'hélicoptère qui a eu un accident mortel. Et elle me dit, Didier, je crois que je pourrais pas chanter aujourd'hui. Et j'ai dit, Dali, c'est pas grave, on va faire du training, on va, comme ça, on va passer les chansons. Elle me dit, non, je pourrais pas, je suis trop triste. Et vous me laissez rentrer chez moi, c'était génial. Parce que elle m'a demandé à moi l'autorisation de rentrer chez elle. Ouais. Tu sais, comme un professeur, est-ce que je peux retourner à la maison et tout ça? Non, c'était une femme tellement, tellement attachante. C'est pour ça qu'on la réécoute toujours avec plaisir et que, entre les chansons populaires, les chansons sentimentales et puis ce destin. C'est ce destin de...
Tragique, oui.
Tragique.
Mais elle est présente parmi une nouvelle génération.
Oui.
Moi, j'ai vu des... Il y a une chanson qui tourne beaucoup, là, c'est Love in Portofino. Et je parlais il y a quelques temps avec des jeunes qui avaient 15 ans, 14 ans. C'était pas à Paris, mais enfin, de la bonne société. On adore Dalida, on écoute ça dans nos soirées, quoi. Donc,
ben oui.
Et ça, c'est aussi le travail de son frère Orlando.
Ah oui, Orlando, il fait autour des enregistrements et de l'œuvre de Dalida.
Mais en plus, Dalida, elle ne supportait pas qu'on dise du mal des autres artistes.
C'est vrai.
On dînait chez elle tous les dimanches soirs, après la partie de Rami. Et si à table, plusieurs ont critiqué tel artiste, elle commençait à crier, je me lève, je ne vous permets pas, elle ne voulait pas qu'on critique les autres artistes.
Vous critiquiez des artistes, non. Dimanche soir à table,
non,
monsieur
Max. Non, pas comme ça. Non, on disait, bon, à table, vous savez, oui, c'est dans les dîners en ville, quoi. Ouais.
On balance un peu, de temps en temps.
C'est vrai que tu ne l'as jamais fait, toi.
Alors là, monsieur Guazzini, alors là, je n'en ferai rien. A tout de suite avec Max Guazzini, mon invité sur Europe 1 cet après-midi.
17h, 18h, dis-moi ce que tu chantes. Didier Barbelivien sur Europe 1. 17h, 18h, Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Max Guazzini est mon invité cet après-midi. On va retrouver pour un grand, grand moment d'émotion. Oserais-je dire la troisième femme de ta vie?
Oh, c'est beaucoup dire, enfin. Mais c'est vrai que Brigitte Bardot a compté pour moi. Déjà, quand j'étais lycéen, j'avais un grand poster d'elle dans ma chambre, à Aix-en-Provence.
Qui n'en a pas eu?
Et d'ailleurs, elle a su, d'ailleurs, quelle était cette photo. Un jour, en conseil d'administration de la Fondation Brigitte Bardot, dont je suis membre, son secrétaire m'a amené la photo que j'avais adolescent dans ma chambre, avec une dédicace formidable. Et j'ai eu l'insigne honneur de faire le discours dans l'église pour ses obsèques, à la demande de son mari.
Bien sûr, de Bernard, voilà. Oui.
Si on m'avait dit, justement, quand j'étais adolescent, qu'un jour, pour les obsèques de Brigitte Bardot, qui était mon idole, c'est moi qui parlerais, et en plus c'était retransmis sur les écrans géants, dans tout Saint-Tropez,
c'est incroyable. Et puis, c'est important, le souvenir d'avoir approché ce charme, cette femme hors du commun.
Oui, tout à fait. Bon, moi je suis à sa fondation, et la fondation va continuer, bien sûr, parce que c'est une fondation, il y a 300 salariés, 500 bénévoles, 12 500 animaux, des actions dans tellement de pays, 70 pays. On fait des sauvetages quotidiens, il faut savoir. Hein. Et on a beaucoup d'animaux de ferme.
On peut dire qu'on encourage tous nos auditeurs à continuer à participer et à faire vivre cette fondation.
Oui,
qui...
mais elle va vivre, honnêtement, puisque Brigitte nous appelait, mais la fondation a sa vie propre depuis longtemps. Voilà, très opérationnelle. En fait, on a 10 000 animaux de ferme, 2 000 chevaux.
C'est fou.
On est la plus grande ferme de France, la Fondation Brigitte Bardot.
On va la retrouver. Le seul truc, peut-être, qu'elle abandonnait avec nostalgie quand arrivait septembre, c'était sa maison et la plage de Saint-Tropez à la Madrague. On la retrouve avec bonheur et plaisir. Brigitte Bardot.
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne.
Max Boisigny est mon invité. On vient de retrouver Brigitte Bardot pour le plus grand plaisir dans la Madrague.
Et c'est, elle a enregistré beaucoup de chansons, mais moi, c'est celle que je préfère.
Oh, bah, celle-là, c'est la France entière connaît la Madrague. Et quand je dis la France, peut-être le monde. Alors là, changement de décor complet. On va écouter. C'est ton choix, hein. C'est là où t'es merveilleux. T'es d'un éclectisme. Bert Silva dans Les Roses Blanches.
Un gosse de Paris, pour famille, il n'a avec sa mère. Une pauvre fille, aux grands yeux rougis, par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches. Au lieu d'acheter des joujoux, la câlinant bien tendrement, il le disait en les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman. Au printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie. Doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, tout bas, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, toutes ces roses
Silva, les roses blanches, c'est le quatrième choix de mon invité Max Guazzini, et je vois ton émotion en direct.
Ouais, cette chanson me fait pleurer.
Ben, je le vois.
Toujours, depuis gosse, elle me fait pleurer. Surtout moi, j'ai perdu ma mère, mais même avant, j'ai toujours, et chaque fois, au bout d'un moment, je pleure. C'est automatique, même si je pense à autre chose.
Mais tu viens te faire ouais, du mal avec les roses
mais non,
blanches.
Mais c'est une chanson tellement belle, c'est une histoire.
Ben oui.
C'est une belle histoire, et c'est tellement...
C'est un film en sépia,
c'est
en noir et blanc.
C'est aujourd'hui dimanche, où ma belle maman...
Alors, je te déconseille, parce que moi, je suis un spécialiste de Bert Silva, d'écouter Mon vieux pâteau.
Je l'ai écouté.
Ah, tu l'as écouté?
Tu me l'as dit, je l'ai écouté.
Ah, tu l'as écouté.
Oui, bien sûr, c'est une très belle chanson.
Le chien.
Et Bert Silva, on ne sait plus, c'est une grande vedette, une grande star à l'époque. Elle est morte en 1941, dans la misère d'ailleurs. Et je crois que c'est à Marseille ou sur la Côte d'Azur. Mais moi, cette chanson me touche beaucoup. Ça fait partie du patrimoine de la chanson française, même si on l'oublie beaucoup maintenant de nos jours.
Il y avait les Sunlight, qu'on avait fait une version dans les années, fin des années 60, un groupe français.
Tu as raison, mais... C'est la voix de Bert Silva qui est tellement... Oui.
Puis ces voix gramophones, c'est ce que j'appelle les voix en noir et blanc. Et toi, tu as une attirance pour ça, même si c'est une atmosphère... c'est du Zola, quoi.
Moi, je ne suis pas sceptique, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu aussi des chansons beaucoup plus drôles, comme Le Petit Vin Blanc...
Heureusement, il y avait...
Tu vois très bien Madame la Marquise, etc.
On peut le dire
aujourd'hui, d'ailleurs. Mais...
Oui. parlons-en. Est comment le monde aujourd'hui pour Max?
Il est très décevant.
Décevant.
Quand on a connu, notamment, les années 80, ça va. Maintenant, on nous complique la vie en permanence. Tout est compliqué.
Tout.
Et en plus, bon, on nous matraque d'impôts, voilà.
Des normes impôts,
ça fait 40 ans.
Non, mais j'allais dire d'énormes impôts, mais des normes aussi en deux mots.
Des normes, etc., des impôts. Je suis désolé, ça fait 40 ans qu'on a des impôts, on n'a jamais autant de déficits, donc on est dirigé par des incompétents.
Mais ça, c'est un truc qu'on a en commun, parce que quelquefois, je me dis, mais même je le dis chez moi à la maison, je dis, mais quand même, depuis le temps qu'on paye des impôts, qu'on nous augmente depuis 40 ans tout le temps, on a encore de la misère, mais qu'est-ce qu'ils font?
On est le pays le plus taxé du monde. Et là, ils augmentent encore des impôts.
On a des problèmes dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans la police, dans la justice,
dans la sécurité.
Dans la sécurité.
Sans parler du reste.
Mon Dieu. Bon, n'en parlons plus. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1, la radio libre.
Europe 1, 17h-18h, dis-moi ce que tu chantes. 17h-18h, Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Max Guasini est mon invité sur Europe 1. On est dans la dernière ligne droite. Et là, tu as choisi un truc. Alors, collectif métissé dans les yeux d'Émilie. Ma chère Maryse, quand elle me donne mes fiches, elle me sort les textes des chansons. Et là, je me dis... En plus, je connais pas cette chanson. Si, je la connais par Joe Dassin, bien évidemment. Et là, regarde, je vois le texte. Oh. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un arrangement.
C'est un arrangement. Mais on va la découvrir. Et parce que là, j'allais... Normalement, tu sais, je fais toujours... Enfin, t'as vu, pendant toute ton interview, je reviens sur les textes. Je dis, elle est comme ci, elle est comme ça. Et là, je me dis, mon Dieu, s'il n'y avait pas le refrain, le texte a complètement disparu. Je rappelle qu'il était de Pierre Delanoë et Claude Lemel, qui ne sont pas les premiers venus dans ce métier, quand même, à dire Monsieur Michel Drucker. On écoute.
Moi j'avais le soleil, jour et
collectif métissé dans les yeux d'Émilie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rien. Oui. J'aurais vu Maryse Jacquet debout sur la console du studio, là-bas, derrière la vitre, en train de chanter ce texte quand même merveilleux. Si, Max, même toi, regarde, t'es mort de rire.
Non, non, pas mort de rire. Mais c'est quoi, moi, j'adore ce choix ça. C'est, écoutez, ça vient c'est sorti, ça d'abord, il y a une chose qui est certaine, c'est que des titres ressortent de nos jours, parce que peut-être les gens ont un peu marre du rap, quoi donc. Et c'est parti dans le sud-ouest, dans le rugby notamment, et
mais,
maintenant dans
les... Mais pourquoi cette chanson-là? Qu'est-ce qu'elle leur a fait?
Mais Émilie, c'est comme ça, il y a des chansons qui sortent comme ça, Le Chasseur de Michel Delpech, qui on entend tout le temps, ça passe dans les stades, au Stade de France, l'équipe
c'est
de France joue.
C'est une très belle chanson, Le Chasseur.
Et donc, bon... Ça veut dire que bon, les vieilles chansons, les bonnes chansons ne meurent jamais, quoi.
D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le...
Oui,
il y a que
mais...
le refrain.
Oui, oh, je sais, oh, oui, je sais, oh, oui. Oh, mais tout le monde dans le
dessus. Tu tapes avec un stylo.
Oui, je sais, pour toi qui es un puriste, mais
non,
en fait...
Non, sans être un puriste, faut
les
pas
gens dansent dessus, et c'est un titre qui donne de la joie, et les gens dansent dessus, et voilà, c'est comme ça.
Ben, on a vu la réaction avec Maryse Jacquet, ben oui, je veux dire...
Non, mais on l'entend partout.
Et
dans...
elle prend pas de produits, machin, rien.
Non, mais il y a des gros dîners que font, ça s'appelle le canon français, tout le monde danse ça là-dessus, c'est énorme, c'est énorme.
Donc, le rugby mène à tout, mesdames
tout
et messieurs,
fait,
jusqu'aux
même
reprises,
musique.
Même à la musique, des reprises de chansons de Joe Dassin. Bon, pour revenir vers le rugby, là, c'est quand même un truc plus sérieux. Moi, dans ces années-là, j'ai pas zappé l'aventure du Stade français, mais j'ai toujours été plus football, moi, tu vois. C'est comme ça.
Pas de souci.
Mais non, je sais. Mais toi, faut que tu me racontes. Parce que toi, c'est pas un petit caprice, une petite lubie qui t'a pris.
Non, c'est une passion.
C'est une passion. C'est un truc de dingue. T'as pris un club qui était en 4e division.
Non, c'est eux qui m'ont pris, c'est pas pareil.
Oui, enfin, c'est pareil. Enfin, non, l'un ou l'autre. Bon, mais ils sont venus te chercher.
Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours été un fan de rugby. Et puis, honnêtement, j'allais aux matchs, les matchs du Racing, il faut le dire. Et en plus, bon, sur la radio que je dirigeais quand même, Énergie, j'avais écrit des modules rugby dans toute la France. Il y avait des correspondants un peu partout. Par exemple, à Colomiers, c'était Fabien Galthié, à Clermont, Philippe Saint-André, enfin, peu importe, je ne vais pas faire la
liste. Si, si, mais c'est important pour les
joueurs importants.
Dis-moi, nos auditeurs, ils aiment ça.
Oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, ils m'ont demandé, le Stade français, qui était en 4e division, il faut le dire, de venir aller voir jouer. Et moi, je me suis dit, mais attendez, ils s'imaginent qu'Energie va patronner un club de 4e division. On avait Madonna, Michael Jackson, etc., U2. Et bon, pour faire plaisir, je suis allé un dimanche, après ils m'ont invité à déjeuner, etc. Et ils m'ont dit, on te propose d'être vice-président chargé de la communication la première année. Je dis, écoutez, franchement, et alors Jean-Pierre Rive, qui est un capitaine iconique de l'équipe de France de rugby, le blond là,
oui,
là
oui,
avec le sang sur la gueule,
on le voit tous.
Il me dit, vas-y, t'as une mission. Bon, et moi, quand j'ai accepté, puis à la fin de l'année, ils m'ont élu président, mais j'avais rien demandé, jamais imaginé que je serais président d'un club de rugby. Puis j'ai compris comment ça se passait. On a donné un côté un petit peu très traditionnaliste, très militaire, mais aussi très très glamour, quoi. La première année...
Les Pom-Pom Girls,
oui,
bah
avant
y a
ça,
eu
on a,
tout ça.
On a fait un album qui s'appelle que les chanteurs jouaient, qui s'appelait Quand le stade se met à chanter, avec toutes les chansons du rugby. On a été album d'or de l'époque, donc c'était en 94, un truc comme ça. Et on a eu ce côté un petit peu glamour pour exister à Paris, quoi. Puis bon, il y a eu tout ce qu'on a fait, quoi. Bon. Les gens parlent toujours du maillot rose, mais ça c'est rien, le maillot rose, c'est surtout on a fait venir les femmes, on a mis la musique dans les stades, ça n'existait pas.
Mais non, mais attends, il y a l'exploit, ok, mais il y a l'exploit sportif quand même.
Oui, on était 5 fois champion de France.
Voilà,
mais que, avec les gars, joueurs iconiques, bien sûr.
Vous arrivez de 4e division, vous êtes 5 fois champion, le bouclier de Brennus.
Oui, mais en 5 ans, on est passé la 4e division à champion de France, ça n'a jamais existé. Chaque année, on
montait d'une division. C'est pour ça que je relève le truc.
Ouais. Et à l'époque, j'avais demandé au président de la Fédération française de rugby, président, il faut combien de temps pour être champion de France? Et lui, pour pas me décourager, il m'a dit 5 ans. Et j'ai dit, dans 5 ans, on le sera. Et on l'a été. Ce sont des aventures très sympathiques, quoi. Mais le rugby, c'est vrai, c'est, maintenant, il devient très populaire. Les gens disent oui, merci. Et les gens m'arrêtent tout le temps. Ils me disent merci pour tout ce que vous avez fait pour le rugby. Et là, il y a eu une émission sur Canal pour les 30 ans du Top 14. Et franchement, on dit que j'ai eu un rôle important. Mais moi, je me rends pas compte de tout ça. On a vécu notre histoire, notre vie. Quand le jour, on décide d'être en jouer à jour moins dans un stade de 10 000 places, d'aller jouer au Stade de France, un simple match de championnat, il faut être fou. Hein. D'ailleurs, en allant signer au Stade de France, je me dis, on est fou. Mais c'est pas grave. Si on tente rien dans la vie, on ne fait rien. On y est allé et on a joué à guichet fermé. Ça, c'est magnifique.
J'ai raison de dire dans mon édito que peut-être les gens timides et discrets, parce que tu es un type pudique, timide et discret dans la vie, ils sont capables des plus grandes
audaces. Mais c'est dingue. C'est incroyable que tu dis ça, parce que c'est vrai, quoi. Mais là, ça a été incroyable. D'ailleurs, la première fois qu'on a joué au Stade de France, parce qu'on a joué 20 fois, 1 400 000 spectateurs environ, on a fait un grand karaoké géant avec des chansons françaises. Les démons de minuit, Sardou en chantant, etc. La belle histoire, et tout le stade chantait. Il y avait des écrans, évidemment, mais c'était vraiment une fête formidable. Et les gens me disaient ensuite, bon, j'en me connaissais, merci pour la fête du rugby. Et on a fait le feu d'artifice, ce qui était interdit, parce que à la Fédé, ils étaient vraiment un peu ringards. Et j'ai dit au président de la Fédé, on va faire un feu d'artifice. Il m'a dit, je veux pas le savoir. On l'a fait. Et pour la première fois, il y a eu des feux d'artifice au Stade de France. Maintenant, c'est courant, quoi.
Bien sûr. Est-ce que tu n'aurais pas, Max, un peu, quelquefois, l'impression d'avoir été un gris-gris?
Un gris-gris, ça veut dire
un
quoi?
Un gris-gris, un porte-bonheur. Parce que, bah, c'est quand même.
Non, parce que non, c'est la volonté.
Ce que t'as fait d'énergie.
On a eu de la chance, et puis on était passionnés. Bon, on a fait des choses extraordinaires. Le maillot rose, on a fait les calendriers des dieux du stade, on a fait tout ça. Les maillots à fleurs, les maillots pop art, voilà. Mais on s'amusait, quoi. On était créatifs, mais on était très. Moi, j'aime bien tout ce qui est militaire. Et les joueurs, par exemple, on était en déplacement. Tout le monde était habillé de la même façon. Le soir au dîner, à l'hôtel, tout le monde avait le même t-shirt. Il y avait un dress code.
Yes.
Et c'était très respecté. Et ça, ça forme les équipes. Et surtout les joueurs qui ont du caractère. Les joueurs qui n'ont pas de caractère, on ne fait pas de grandes équipes.
J'entends que ta voix baisse. Mais c'est tu sais pourquoi?
Oui.
La passion.
Oui, peut-être.
Quand tu parles passionnément des choses, tu peux en parler longtemps.
Voilà. Mais ce
de
sont
la
de
même
bons
façon
moments.
Que tu es un croyant, un catholique fervent.
Fervent, c'est beaucoup dire, c'est catholique.
Non, mais je ne dis pas que tu vas à la messe tous les dimanches.
Je vais à la messe tous les dimanches, à la messe en latin, et je fais partie de la chorale depuis 2009. Ça
mais
fait
tu
15
t'es
ans.
Éloigné un peu de l'église à un moment.
Oui, bien sûr, mais je suis revenu, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne me suis jamais éloigné, mais je n'allais plus à la messe, là, je vais à la messe. Bon, ça va, j'essaie de...
Et nous, on a eu envie de t'offrir, en qualité de chanson du patron... La marche des rois par la Scola Regina, parce que moi j'adore aussi ça, le chant d'église. Chers auditeurs, auditrices, si vous doutiez encore qu'on est la radio la plus libre de France, n'en doutez plus. On vient de passer de collectif métissé à la Schola Regina sous l'impulsion de Max Guazzini.
C'est bien la diversité.
Ah ben là, mais... là, on peut dire qu'on a fait le grand écart, mon cher
oui,
Max.
Oui, mais c'est qui est sympathique. Mais alors, quand même, je peux dire un mot là, sur cet album, ben oui. Puisque c'est moi qui l'ai produit. Et ça s'appelle Les Chants de Jésus. Et j'ai produit 4 albums. Comme ça, qui sont catholiques. D'abord, il y a eu Credo qui a été épuisé, où il n'y avait que les chants populaires, grégoriens et latins. Puis il y a eu les chants de Marie, ça a créé les chants de Jésus. Et là, on a fait un coffret qui s'appelle les chants cathos, qui a été épuisé, là, on l'a ressorti. Mais sur la marche des rois, quand même, on peut parler de la chanson ?
Bien sûr.
Parce que il y a à chaque fois une histoire des chants, et c'est un chant d'origine provençale. Et on ne connaît pas vraiment l'origine, 17e, 18e siècle. Et ça vient du Moyen Âge aussi, on ne sait pas. Et c'est très. Alors c'est peut-être comme origine un chant militaire guerrier qui s'appelle la Marche de Turenne sur la même mélodie. D'ailleurs, de nos jours, les Saint-Syriens chantent cette mélodie avec des paroles militaires. Et voilà, c'est un très beau chant. C'était l'épiphanie, il y a quelques jours, les rois mages. Donc je trouvais que c'était bien dans l'émission de
Mais surtout, dans l'émission, c'est bien d'être libre. Et t'as vu, dès que tu reparles des chants religieux et des chants militaires, tu retrouves ta voix.
Ouais, mais en plus, là, sur ce chant, il y a quand même 53 chanteurs, quoi.
Ouais.
Des vrais chanteurs.
Non, mais ça s'entend. En tout cas, on a été ravis, et moi surtout, de te recevoir cet après-midi sur Europe 1.
Moi aussi, j'espère que les auditeurs seront de cet avis aussi.
Ah ben, les auditeurs, là, tu les as un peu chanstiqués. Non, mais pour ceux qui ont raté le début de l'émission, écoutez en podcast, Petula Clark, Dalida, Brigitte Bardot, Bert Silva, Collectif Métissé, et la Schola Regina étaient les invités musicaux de Max Guazzini.
Merci, c'était un plaisir, Didier.
Notre invité à nous.
Merci beaucoup.
Je t'embrasse,
Didier.
Max.
Je t'aime.
C'était Dis-moi ce que tu chantes avec Didier Barbelivien, que vous retrouverez dimanche de 17h à 18h sur Europe 1. Allez, nos programmes de nuit, c'est fini. Dans un instant, Europe 1 Bonjour, votre premier rendez-vous d'infos de la journée, avec Alexandre Lemaire et toute la rédaction d'Europe 1. Et côté musique, aujourd'hui, on a choisi Oasis avec Whatever. We'll be right back. C'était Oasis sur Europe 1 et l'heure est venue de faire un premier tour de l'actualité. C'est avec vous Alexandre Lemaire. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs. Excellent début de semaine à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, 5h-7h, nous sommes en direct et c'est Marion Gagnon qui est là pour vous accompagner également. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
La tendance côté ciel.
Ah, l'épisode méditerranéen ne faiblit pas, hein. On a 5 départements placés en vigilance aujourd'hui.
Et que vous nous détaillez dans un instant. Europe 1, bonjour, dans l'actualité de ce lundi 19 janvier. Comment parvenir enfin à un budget pour la France? L'Assemblée nationale, tellement fracturée, vous le savez, ne pourra pas le voter, ce budget. Sébastien Lecornu va donc trancher tout à l'heure entre soit le retour du 49-3 ou bien le recours aux ordonnances, ce qui serait inédit sous la 5e République à tout le moins pour faire adopter un budget. Surtout pas d'ordonnances, met en garde le PS. Le député Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste, vous dira pourquoi dans un peu plus d'une demi-heure. Il sera mon invité à 6h-20. On va aussi parler avec lui de la crise du Groenland, car Donald Trump veut toujours mettre la main dessus et menace à présent 8 pays européens, dont la France, d'un nouveau malus sur les droits de douane. L'Europe s'apprête à riposter. Votre histoire dingue, Marion.
Ah, attention, un scandale ce matin, Alexandre. Scandale qui touche le monde culinaire.
Et le nôtre.
Et oui.
Vous allez nous raconter dans un quart d'heure. Dans 10 minutes, comme un lundi, les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Pierre Durieux vous parle ce matin de la chorale au clair de la rue, chantée à la mémoire des personnes sans abri. Le temps pour ce 19 janvier, Marion, toujours de fortes intempéries à prévoir, donc en particulier dans le Roussillon et en Corse.
Et oui, les pluies seront toujours très très abondantes en Roussillon et surtout sur l'est de la Corse. Hein, dans ces régions, l'équivalent d'un à deux mois de pluie sont déjà tombés hier. Par exemple, dans l'Hérault, à Castanet-le-Haut, Météo France a relevé 213 mm sur le week-end. Donc là, l'épisode atteint son paroxysme aujourd'hui. Dans l'Aude-et-Léron, on a déjà de nombreux cours d'eau qui ont dépassé leur seuil. Les deux départements sont placés en vigilance orange crue. Et la vigilance orange pluie-inondation concerne aujourd'hui l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Corse du Sud et la Haute-Corse. Donc soyez extrêmement prudents. Et puis ajoutez à cela du vent. Le vent qui souffle toujours très fort en bord de mer avec des rafales proches de 90 km/h. La neige qui, elle, continue de tomber en quantité en montagne, sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse. On a un fort risque d'avalanche sur le nord de la Corse. Enfin bref, c'est une météo très très agitée sur cette zone. Partout ailleurs, le temps sera beaucoup plus calme, mais malheureusement très couvert sur la moitié ouest, avec quelques ondées par-ci par-là. Ce sera quand même beaucoup plus lumineux à l'est. Côté température, vous aurez cet après-midi 5 degrés à Colmar et à Dijon, 8 degrés à Besançon, 9 à Lyon, 11 à Toulouse, Lille, Clermont-Ferrand et Saint-Brieuc, 12 degrés à Bordeaux, Paris et Angers, 13 à Caen et à Biarritz, 15 à Marseille,